Cette méthode de transmutation directe, sans passer par renaissance, est-ce possible maintenant? Ce procédé de transmutation directe, sans passer par renaissance, est-ce possible maintenant, puisque le supramental maintenant est en terre?
Si c'est possible. Vous demandez si c'est possible. Tout est possible. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si ça a été déjà fait? Jusqu'au plan le plus matériel, jusqu'au physique subtil perceptible, perceptible par une un des sens intermédiaires entre les sens physiques et les sens du physique subtil. Par exemple, comme un souffle qui est senti comme une brise légère. Comme certaines perceptions de l'odorat, comme des parfums subtils. Mais, naturellement, ceux qui ont une vision interne voient. Mais pour les sens les plus matériels, avec la permanence que donne le corps physique tel que nous le connaissons matériellement. Il y a des phénomènes de même de vision, mais c'est passager. Il n'y a pas une... C'est la stabilité dans la matière, la fixité qui n'a pas été obtenue. Je veux dire que il y a contact, il y a même contact de toucher, n'est-ce pas? Il y a perception, mais il n'y a pas cette permanence que donne le corps matériel. Ce sont des phénomènes passagers. Qui naturellement ne vous donne pas la même impression de réalité tout à fait tangible. Pourtant, l'influence est constante, l'intervention est constante, la perception est constante, mais pas le... n'est-ce pas, cette chose d'un corps qui... Eh bien, quand il sort de la chambre et qu'il rentre, il rentre le même qu'il est sorti, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ou quand vous asseyez à une place, eh bien, ça occupe une place d'une façon tout à fait concrète. Ça, je ne peux pas dire parce que, n'est-ce pas, je ne sais pas tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe sur la Terre. Mais à ma connaissance, on n'a pas encore obtenu ça. Cette permanence concrète. C'était pourtant de la matière puisque... Il y a eu vision, il y a eu contact, il y a eu audition, ça n'a pas besoin d'être très matériel. Les choses de la vie physique subtile, les vibrations, peuvent s'entendre très bien. Alors ça, c'est pas... N'est-ce pas? Et c'est assez curieux, c'est l'audition et l'odorat qui semblent être... les plus permanents dans le monde physique subtil. Plus que la perception physique. Et un certain sens de contact. Et très, très concret. Seulement, cette chose lourdement matérielle d'une présence qui occupe une place absolument définie et concrète et qui empêche une autre chose d'occuper la même place, ça ne paraît pas être encore là. Par conséquent, ça doit être tout de même un peu plus fluide que la matérialité la plus lourde.
Est-ce que ça dépend sur la conscience humaine pour cette progresse ou pour se progresser, pour qu'il soit possible. Est-ce que ça dépend?
Vous voulez dire pour une matérialisation plus complète? Ça dépend d'un pouvoir de maniement des vibrations de la matière. Ce pouvoir de maniement, n'est-ce pas, est nécessairement le résultat d'un certain état de conscience. Et tout dépend du point de vue auquel on se place. Parce que il n'y a pas de progrès individuel qui puisse se produire sans ce qu'on pourrait appeler l'autorisation de la volonté divine. finalement rien dans la création ne peut se produire sans l'assentiment de la volonté divine. Alors,
mais le premier corps supramental, est-ce qu'il sera comme ça?
Il sera comme quoi?
Comme une transmutation sans la naissance.
Ah, pardon, faut pas confondre. Il y a deux choses. Il y a la possibilité d'une transformation progressive d'un corps physique en un corps supramental, ou plutôt d'un corps humain en un corps surhumain. Ça, ce serait une transformation progressive qui pourrait prendre un nombre d'années données, probablement assez considérable, et qui produirait un être qui ne serait plus un homme dans le sens animal du mot, mais qui ne serait pas l'être supramental formé de toutes pièces en dehors de l'animalité, puisque l'origine actuelle est forcément une origine animale. Alors il peut se produire une transmutation, une transformation suffisante pour libérer de cette origine, mais ça ne serait pas tout de même une création purement et entièrement supramentale. Sri Aurobindo a dit qu'il y aurait une race intermédiaire. Une race, ou peut-être quelques individus, on ne sait pas. Ce serait peut-être un échelon intermédiaire qui servirait de passage, ou qui pourrait être perpétué selon les nécessités, les besoins de la création. Mais si on part d'un corps formé tel que sont les corps humains maintenant, ça ne sera jamais le même résultat qu'un être entièrement formé selon la méthode et le procédé supramental. Ça peut être plus du côté surhumain, dans ce sens que toute expression animale peut disparaître, mais ça ne peut pas avoir la perfection absolue d'un corps purement supramental dans sa formation.
Si c'est un corps, si c'est dans ce corps humain transformé, est-ce qu'il y aura le sens de l'homme et la femme?
Quoi? Qu'est-ce que vous dites?
Si le supramental accepte ce corps qui est fait...
Accepte? Qu'est-ce que ça veut dire, accepte?
Cela veut dire descend dans cette forme humaine. Est-ce qu'il y aura le sens...
Non, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une bouteille dans laquelle on met un liquide. Ce n'est pas ça.
Par la transformation du corps humain, le sens de l'homme.
Vous demandez si le corps gardera sa forme ou masculine ou féminine. Il est probable que ce sera laissé au choix de l'être qui entrera dans la maison. L'occupant. Ça vous intéresse beaucoup, cette différence?
Vous nous dites qu'il n'y aura pas de différence, mais vous voyez, il y a beaucoup de différences encore qui existent.
Hein?
Vous nous dites, autant qu'on va en haut, il n'y aura pas de différence. Mais jusqu'ici, nous voyons qu'il y a beaucoup de différences.
Au quel point de vue?
Du point de vue de...
Si c'est de l'apparence physique, c'est entendu. Encore, pas tant que ça. Mais enfin, à quel point de vue?
Du point de vue de l'idée de sexe, il y a deux différents. Ça existe encore.
L'idée? Mais ça, c'est la faute de celui qui pense. On peut très bien se passer d'y penser. Ça, n'est-ce pas, c'est toute petite limite de pensée, ce sont des choses qui doivent disparaître avant que vous essayiez de transformer votre corps. Si vous êtes encore dans ces toutes petites idées qui sont purement animales, il n'y a pas beaucoup d'espoir que vous puissiez commencer le moindre procédé de transformation de votre corps. Il faut d'abord que vous transformiez votre pensée. Ça, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui grouille encore tout en bas. Si vous n'êtes pas capable de sentir que un être, conscient et vivant peut être tout à fait libre, même dans une forme donnée, de tout sens de sexe, ça veut dire que vous êtes encore jusque-là et jusque-là dans l'animalité d'origine.
Dans la pensée intérieure, on sent, mais dans l'actualité, dans l'actualité de vie matérielle.
Quoi l'actualité?
Dans la vie extérieure où je demeure, je n'ai pas encore réalisé ça.
Vous passez votre temps à y penser?
Être dehors de sexe, dans la conscience.
Mais on peut vivre 24 heures sur 24 sans avoir une pensée à cette différence-là. Il faut vraiment être hypnotisé par cette affaire. Vous croyez que quand je vous parle, je pense que vous êtes un homme, et quand je parle à Tara, je pense qu'il est une femme? Ah, c'est pas du tout nécessaire. Au principe? Quel principe?
Il n'y a pas de différence. Quand je suis en contact avec quelqu'un, c'est pas à l'homme que je parle.
Eh bien, c'est très dommage pour vous et pour cette personne. Ну, сам. C'est justement tout le contraire de ce qui doit se passer. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un et que vous lui parlez, c'est justement ce qui dépasse toute animalité que vous devez parler. Et c'est à l'âme qu'il faut vous adresser, jamais au corps. On vous demande même bien davantage, puisqu'on vous demande de vous adresser au divin, et même pas à l'âme, au divin unique en tout être. D'avoir conscience de cela.
Mais si un seul côté est conscient, qu'est-ce que ça fera?
Quoi?
Si un seul côté est conscient, l'autre est brut, alors comment, qu'est-ce que ça fera? Ça ne change pas. Là.
Si on est seul à être conscient, et qu'en savez-vous? Et comment et sur quel plan jugez-vous que l'autre n'est pas conscient?
De façon de réponse dans l'actualité.
Mais peut-être que lui pense la même chose de vous. Eh bien, moi, je vous dis que tant que ce n'est pas à la présence divine que vous vous adressez, quand vous parlez à quelqu'un, ça veut dire que vous n'en avez pas la conscience en vous. Et qu'alors, c'est une outrecuidance formidable de juger de l'état dans lequel cette autre personne se trouve. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça, dans l'autre être, de quel droit pouvez-vous dire qu'il en est ou qu'il n'en est pas conscient? Sur quoi vous basez-vous? Sur votre petite intelligence extérieure? Mais elle ne sait rien. Elle est tout à fait incapable de percevoir quoi que ce soit. À moins que votre vision ne soit constamment la vision du divin en toute chose, vous n'avez non seulement aucun droit, mais aucune capacité de pouvoir juger de la condition dans laquelle se trouvent les autres. Et de prononcer un jugement sur quelqu'un sans avoir cette vision spontanément, sans effort, représente justement l'outrecuidance mentale dont M. Aurobindo a toujours parlé. Et il se trouve ceci, que celui qui a la vision, celui qui a la conscience, qui est capable de voir la vérité en toute chose, celui-là ne sent nullement le besoin de juger quoi que ce soit, parce qu'il comprend tout et qu'il sait tout. Par conséquent, une fois pour toutes, il faut vous dire que de la minute où vous commencez à juger des choses, des gens, des circonstances, vous êtes dans l'ignorance humaine la plus totale. On pourrait résumer comme ça. Quand on comprend, on ne juge plus. Et quand on juge, c'est qu'on ne sait pas. C'est une notion qui, une des premières choses qui doivent être balayées totalement de la conscience avant que vous puissiez faire un pas sur le chemin supramental. Parce que ça, ce n'est pas un progrès matériel, ce n'est pas un progrès corporel, c'est un progrès seulement un petit peu de la pensée mentale. Et à moins que vous n'ayez balayé votre mental de toute son ignorance, vous ne pouvez pas espérer faire un pas sur le chemin supramental. En fait, vous avez dit une chose formidable. Quand vous avez dit « Je ne peux pas m'adresser à son âme s'il est une brute », eh bien, vous vous êtes donné un... Vous êtes mis une étiquette. Voilà. Tous ceux qui ont eu vraiment et sincèrement l'expérience de la présence divine, tous ceux qui ont été vraiment en contact avec le divin, ont toujours dit la même chose. Je sais parfois, c'est même souvent, dans ce qui est le plus décrié des hommes, le plus méprisé par les hommes, le plus condamné par la sagesse humaine, que l'on peut voir briller la lumière divine. Ce ne sont pas des mots, ce sont des expériences vivantes. Toutes ces notions de bien, de mal, de bon, de mauvais, de supérieur, d'inférieur, ce sont toutes des notions qui appartiennent à l'ignorance du mental humain. Et si vous voulez vraiment entrer en contact avec la vie divine, il faut se libérer totalement de cette ignorance. Il faut s'élever à une région de conscience où ces choses n'ont pas de réalité. Le sens de supériorité et d'infériorité disparaît totalement. Il est remplacé par quelque chose d'autre qui est d'une nature très différente. Une sorte de capacité de filtrer les apparences, de passer à travers les masses. De déplacer le point de vue. Et ce ne sont pas des mots. C'est tout à fait vrai que tout change d'apparence totalement. Que la vie, les choses, sont tout à fait différentes de ce qu'elles paraissent. ce contact et cette perception ordinaire avec le monde perd totalement sa réalité. C'est ça qui paraît réel, fantastique, illusoire, inexistant. Il y a quelque chose, et quelque chose de très matériel, de très concret, de très physique, qui devient la réalité de l'être. Et qui n'a rien à faire avec la façon de voir ordinaire. C'est quand cette perception-là, la perception du travail de la force divine, du mouvement qui s'élabore derrière l'apparence, dans l'apparence, par l'apparence. C'est quand on a cette perception-là qu'on commence à être prêt pour vivre quelque chose de plus vrai que le mensonge humain ordinaire. Mais pas avant. Il n'y a pas de compromis, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce n'est pas comme une convalescence hors d'une maladie. Il faut changer de monde. Tant que votre mental est réel pour vous, tant que votre façon de penser est une chose vraie pour vous, réelle, concrète, ça prouve que vous n'y êtes pas encore. Il faut passer de l'autre côté, d'abord. Après, vous pourrez comprendre ce que je vous dis. Passez de l'autre côté. Ce n'est pas vrai qu'on peut comprendre petit à petit. C'est pas comme ça. Ce genre de progrès-là, ce n'est pas comme ça. Ce qui est plus vrai, c'est qu'on est enfermé dans une coquille. Et que dans la coquille, il y a quelque chose qui se passe. Comme le poussin dans l'œuf. Il est en train de se préparer là-dedans. Il est là-dedans. On ne le voit pas. Il se passe quelque chose dans la coquille, mais au-dehors, on ne voit rien. Et c'est seulement quand on est prêt qu'alors il y a la capacité de percer la coquille et de naître au plein jour. Ce n'est pas qu'on devient de plus en plus perceptible ou visible. On est enfermé. On est enfermé, et même pour les gens sensibles, il y a cette sensation terrible d'être enfermé, d'essayer de passer au travers. Et puis on est en présence de murs. Et alors on cogne, on cogne, on cogne, on cogne, et on passe pas. Et tant qu'on est là, dedans, on est dans le mensonge. Et c'est seulement le jour où par la grâce divine, on peut casser la coquille et surgir dans la lumière, alors on est libre. Ça peut se faire tout d'un coup, spontanément, d'une façon tout à fait inattendue. Je ne pense pas qu'on puisse passer au travers progressivement. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse s'user, s'user, s'user jusqu'à ce que ça, on puisse voir au travers. Je n'en ai pas eu d'exemple jusqu'à présent. Il y a ce une sorte d'accumulation de pouvoir à l'intérieur. Une intensification du besoin. Et une endurance dans l'effort. Qui devient libre de toute crainte, de toute anxiété, de tout calcul. Un besoin si impérieux qu'on ne se soucie plus des conséquences, sonné comme un explosif. Auquel rien ne peut résister. Et on jaillit hors de sa prison. Dans un éblouissement de lumière. Après cela, on ne peut plus retomber en arrière. Ça, c'est vraiment une nouvelle naissance.